Salut les Marc et salut les Smarc, bienvenue dans l'épisode 10 de Catch Up, tandis que l'orage s'abat derrière moi. Je ne sais pas si on l'entend sur l'enregistrement. Votre podcast des cahiers du catch, accompagné aujourd'hui par Yerem. Salut Yerem.
Salut à tous.
Et Ringside.
Salut.
Et donc je ne me suis pas présenté, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pas un good guy, pas un bad guy. Hank.
Juste Hank.
Donc on va parler aujourd'hui tout simplement de Monday Night Raw, hein, comme toutes les semaines. Donc ça va être le Monday Night Raw du 27 juin si vous regardez au calendrier. Un Monday Night Raw qui a débuté avec l'arrivée de Seth Rollins sur scène de façon assez étonnante. Il commence par parler de Roman Reigns qui, comme vous le savez bien puisque vous passez votre vie à regarder les news de catch, Roman Reigns a été suspendu pour une infraction à la wellness policy de la WWE qu'on ne connaît pas pour l'instant, hein. L'infraction, ça peut être du shit, il a peut-être tapé une femme, on ne sait pas.
mais visiblement, tu t'es déjà fait une histoire dans ta tête, toi.
Non, mais disons qu'il y a un peu les classiques, tu vois, la WWE, c'est soit tu frappes ta femme, soit tu fumes un joint.
Et pourquoi pas les deux?
Ouais, tu peux faire les deux, mais je pense qu'il aurait pris
écrasé son joint sur une femme.
Je pense qu'il aurait pris un peu plus qu'un mois. Mais donc voilà, il est absent pour un mois. Donc Seth Rollins parle de Roman Reigns en disant que justement, il n'a pas le droit d'en parler. Alors ça, c'est très drôle parce que 3 secondes après, il demande au producteur, enfin au réalisateur de mettre le dernier tweet de Roman Reigns sur le Titan Tron. Donc il se fout de sa gueule en montrant le tweet d'excuses. Il dit que Roman Reigns se proclame seul contre tous, alors pourquoi il demanderait des excuses à tout le monde? Il se fout de sa phrase, donc à la fin du tweet, il dit « I own it », ça veut dire « j'assume », en disant que c'était très facile de dire ça après coup, hein. Après avoir fait son erreur. Et aussi, alors ça, c'est, voilà, c'est, il faut vraiment comprendre l'américain, mais il lui dit qu'il l'a owné, bref, à WrestleMania, etc. En clair que Seth Rollins l'a bien eu à chaque fois qu'il l'a rencontré par ses tricheries, par ses victoires tout clean même. Donc voilà. Il demande que Roman Reigns soit écarté du Triple Threat match qui est prévu à Battleground, donc entre les membres du Shield, je rappelle, Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Ambrose arrive à ce moment-là et il dit que Reigns a fait une petite erreur et ça arrive à tout le monde, et pour lui, Roman Reigns fait toujours partie du match, ça lui pose pas de problème.
On se demande s'ils n'ont pas fumé leur joint tous les deux ensemble, hein, pour qu'ils sortent de ça quand même.
Dégo, non mais c'est vrai que c'est un peu étrange, surtout qu'on ne sait vraiment pas pourquoi il a été suspendu. Donc du coup, Ambrose pourrait être en train de défendre le fait de fumer des joints comme le fait de voler dans un magasin ou de... AJ Styles à ce moment-là arrive et il dit qu'il veut que ce soit un triple threat lui aussi, mais pas avec Reigns, mais avec lui, donc qu'il remplace Roman Reigns. Ambrose lui dit qu'il y aura forcément Reigns, AJ Styles du coup dit eh ben pourquoi pas faire un fatal four-way. Voilà, on continue dans l'escalade. John Cena arrive et il se propose lui aussi de participer au match, parce que pourquoi pas. Donc là il dit fatal five-way, à ce moment-là la coupe est pleine et Stéphanie arrive. Elle dit que le fait qu'Ambrose soit champion est insupportable, etc. Si on joue à mort le classique de la responsable qui n'aime pas le champion face. Enfin, c'est son gimmick pendant très longtemps. Ce qui est bizarre parce que Stéphanie était quasi face il y a 2 semaines, mais bon. Donc, elle dit que Shane est en vacances. Et oui, une nouvelle fois. Il est en vacances quasiment toutes les semaines. Donc, elle annonce qu'il y aura deux matchs pour décider de un peu la configuration du main event de Battleground. Ce sera Seth Rollins contre Cena. Si Cena gagne, Cena est inséré donc dans le triple threat, et un Dean Ambrose AJ Styles. Si AJ Styles gagne, AJ Styles est inséré dans le match, donc le triple threat, donc ça fait quadruple threat. Et si les deux gagnent, five way quelque chose. Et donc voilà. Bon, on va parler déjà de tout ça parce que c'était, il s'est passé plein de choses. Mais vous en avez pensé quoi de ce segment?
Bah écoute, déjà effectivement c'était, je sais pas si on peut dire si c'est vraiment culotté ou pas, mais le fait d'avoir intégré la suspension de Roman Reigns dans la storyline de cette rivalité, c'était plutôt bien vu, c'était plutôt bien amené, particulièrement ce segment avec Seth Rollins. Comme tu dis, effectivement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que c'est plus un joint que qu'une violence domestique, sinon enfin, je pense pas que...
Oui, bah, c'est
bah après on sait jamais, il y a un DVD je crois hein, de sur Roman Reigns qui sort bientôt dans les bacs, donc peut-être qu'on aura la vérité dans un des bonus, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils intègrent ce segment, d'autant plus que ça a aidé un peu à builder un peu plus Seth Rollins, en tout cas son personnage. Aussi, j'ai trouvé ça intéressant que John Cena et AJ Styles viennent un petit peu, venir s'intégrer dans le main event suite au fait que justement il y ait ce spot qui finalement tout d'un coup peut se libérer. Voilà, après tout, chaque catcheur devrait avoir envie d'avoir une occasion de se battre pour le fameux titre de champion de la WWE. Donc John Cena et AJ Styles ont tout à fait, je trouvais ça bien vu qu'ils veulent gratter leur place. J'aurais aimé qu'ils fassent des stipulations un peu plus tarabiscotées, du genre ok, si AJ Styles gagne son match, ça devient un fatal four way, mais pour que John Cena puisse s'intégrer au main event, il faut que AJ Styles gagne et que lui-même gagne, et là ça devient un fatal five way, toi, quelque chose un peu plus tarabiscoté, que chacun doit gagner sa place. Donc après Dean Ambrose, ouais, bon, je trouve ça un peu dommage qu'il couvre aussi facilement son pote. Il aurait pu trouver une autre façon de s'en foutre, toi, parce que finalement il passe son temps à dire qu'il s'en fout, ouais, qu'on soit 3, 4, 5, je m'en fous, du moment qu'il y a de la baston, ça me va. Donc là, le fait qu'il se retrouve encore à vouloir couvrir un peu les arrières de son pote qui a quand même fait une faute pas grave mais suffisante pour être suspendu, il aurait pu s'en passer.
Mais tu sais, comme dirait JBL, he's a lunatic.
Ouais. Ouais, mais c'est bon maintenant qu'il roule pour sa pomme et puis qu'il arrête. Ça faisait du bien qu'ils aient réussi à séparer enfin les deux. On se plaignait suffisamment de Dean Ambrose, le bon pote sympa de Roman Reigns. Maintenant qu'il est champion, voilà, il y a aucune raison qu'il le fasse à nouveau. Voilà, je trouvais que c'était un bon segment d'intro et qui a amené un peu d'intérêt à suivre voilà le reste des matchs, en tout cas les main events, pour le reste du round.
Ouais, à court terme, c'est pas mal, mais moi je suis un peu inquiet de ce que ça va donner plus tard, si à chaque fois qu'ils ont un lutteur qui est piégé par la wellness policy, et ben il s'en cache pas et puis ils le suspendent, puis ils en parlent directement. Je me demande ce que ça va donner dans les années à venir. Ça fait un précédent. Là, dans l'absolu, c'était bien fait. Le segment, ça fonctionnait bien. Du coup, ils ont sorti la grosse artillerie, hein, parce que les deux matchs, Rollins, Cena et AJ Styles, Ambrose, c'est quand même des belles affiches, du coup.
Ça permet au moins d'avoir des main events. Enfin, désolé de te couper, mais c'est clairement, là, les deux matchs qui filent, c'est des main events de pay-per-view, quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors, bazarder en weekly comme ça, un peu à la va-vite. Ça fonctionne sur une semaine, mais après, je ne sais pas si sur le long terme, ça peut donner quelque chose de vraiment pertinent. J'aime pas trop le fait qu'il casse comme ça le kayfabe, finalement. Surtout sur les histoires de drogue, etc. Bon, c'est pas, comme on dit, on sait pas si c'est grave, mais bon, mm-hmm. ça fout mal quand même d'avoir le futur visage de la WWE qui s'est déjà fait toper une fois pour.
Je pense que le gros souci qu'ils ont là, et c'est pour ça qu'ils ont fait un truc aussi original, enfin différent par rapport à d'habitude, c'est que il y a le double problème. Non seulement c'est normalement le top guy, enfin quasi top guy, il a perdu sa ceinture il y a pas longtemps, quoi. Mm-hmm. Et en plus, c'est le top guy qui en chie toujours pour convaincre le public, etc. Donc si en plus on n'en parle pas, mais qu'on le laisse dans le match, ça va énerver encore plus les gens. Donc, ouais. Donc l'histoire de, enfin, je trouve que c'est la meilleure solution qu'ils ont pu trouver pour garder Reigns dans le match.
La moins pire. Façon...
Ouais, voilà. Sinon, t'aurais dit quoi ? Il s'est blessé en tombant du trottoir et, et donc.
De toute façon, il sera là pour le pay-per-view.
On se sera encore plaint que la WWE l'aurait une fois de plus couvert.
Mmh. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas lâché le morceau, on l'aurait peut-être jamais su. Ça posait des questions parce qu'on l'aurait pas vu. Mais
ouais, c'est ça.
Bon, après, s'ils l'ont sorti, c'est qu'à mon avis, ils n'avaient pas trop le choix.
C'est le genre de truc qui filtre super vite. Hein. Adam Rose, on l'a su super vite. Ses problèmes.
Mais après, ils n'en ont pas parlé à SmackDown alors qu'ils étaient au courant. Ils étaient au courant depuis avant le Money in the Bank. Donc ils le font, mais ils le font un peu comme ils veulent.
Ça c'était peut-être pour préserver comme la fiche du pay-per-view, toi. En parler avant le pay-per-view, c'était un peu
c'est sûr. Mais
dévoiler
au moins,
la fin. Quoi.
Enfin bref, je suis perplexe pour l'avenir parce que ça fait quand même un précédent qui est pas.
Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Là, on est clairement, on est dans une illustration de ce que. La WWE, la gestion des événements par la WWE peut être à l'avenir avec cette fameuse reality era qui se situe à plusieurs niveaux, toi, pas simplement, on a les catcheurs, les fans réclament tel catcheur sur les réseaux sociaux, alors on va lui donner une chance. Non, c'est, on va de plus en plus loin dans l'envers du décor. Ouais. Ça se voit aussi notamment avec toutes les émissions, les reportages qu'ils font, pour nous, qui cassent le kayfabe, c'est, effectivement, comme tu dis, on touche une fois de plus au kayfabe qui est de plus en plus mince. Et c'est, il y a des trous.
Parce que je sais pas si vous avez vu ça, mais ça va commencer à ressembler à la période de la WCW par Vince Russo, hein, quand clairement les mecs arrivaient et ils disaient, moi ce soir je suis scripté, il faut que je me couche, mais je vais pas me coucher, machin, lui pensait que tous les gens regardaient l'internet et qu'ils étaient au courant de ce qui se passait, alors qu'en fait c'était vraiment à l'époque une partie fine du public, mais toujours maintenant, hein, je pense pas que la grosse partie du public est vraiment au courant de tous les derniers secrets de ce qui se passe dans les coulisses. Donc s'ils partent vers là, ça n'a pas donné des bons résultats, hein, la WCW, quand c'est passé dans cette ère-là. Hein. Donc il faut quand même faire attention, il faut quand même...
Ce qui est très drôle, c'est que maintenant, si on écoute les podcasts où Vince Russo parle, le truc qu'il répète le plus, c'est de ne pas écouter la communauté internet.
Il a fait que ça toute sa carrière, lui. Hein.
On va passer au match.
Allons-y.
On va passer au match. Donc Seth Rollins contre Cena. Parce qu'on fait une nouvelle fois, on regroupe un peu les segments et les matchs. Seth Rollins contre Cena. Donc c'est l'anniversaire des 14 ans de l'arrivée de John Cena à Raw. Et au moment où il arrive sur le ring avec Seth Rollins, on a une grosse brouhaha du public. Cena, let's go. Rollins, let's go. Enfin, grosse ambiance. Le match est assez lent au début. On voit, j'ai remarqué Cena donner des instructions à Rollins, c'est un petit tic que
c'est pire en pire. Hein.
Ouais, de pire en pire, effectivement.
J'ai chopé ce tic en regardant un épisode de Botchamania il y a pas très longtemps qui compilait des instructions.
Là, il n'y a même plus besoin de regarder, c'est dommage pour Botchamania, mais à force, il n'y a même plus besoin de regarder Botchamania, il suffit de regarder l'Euro et...
Je sais pas si c'est parce que justement on regarde Botchamania qu'on arrive à avoir des choses comme ça ou si c'est vraiment flagrant là. Quoi.
On a développé un sixième sens.
C'est ça.
Bah, en fait, je pense que je le captais avant, ce genre de truc, mais je pensais pas que c'était des instructions, tu vois. Je pensais que genre ils se balançaient des insultes ou des petites. Ouais, voilà. Bah,
ils peuvent faire les deux, hein.
Mais voilà, si vous voulez.
Une petite insulte en loose day, comme ça.
Si vous voulez vous ruiner votre kayfabe, regardez Botchamania avec les sous-titres voilà. Des instructions de Cena ou même d'autres catcheurs pendant les matchs. C'est assez marrant. Donc, bref, le match. Il y a beaucoup d'allers-retours au départ. Entre les deux, c'est assez équilibré. Cena tente vraiment tout, le Five Knuckle Shuffle, le Tornado DDT de la troisième corde. Il y a une bonne séquence de mandales 1 contre 1 qui est remportée par Seth Rollins, mais juste après, Cena l'attrape alors que Rollins est sur la troisième corde. Puis Rollins contre et fait une corner powerbomb. Donc il y a un 2 count. Après, Seth tente un frog splash qui tombe par terre car Cena se glisse sur le côté du ring. Rollins réussit à choper Cena sur la troisième corde et lui fait deux superplex à la suite. C'est assez impressionnant. Mais bien sûr, Super Cena sort du tombé au bout de compte de deux. Après, un enchaînement de Cena récupère Rollins. J'arrive plus à lire mes notes. Cena, juste après un gros enchaînement, il récupère Rollins. Dans ses bras, comme un bébé, en fait. Rollins saute de la troisième corde, il le récupère dans ses bras. Il lui pose un AA, mais Rollins arrive à mettre le pied sur une corde. Ensuite, Rollins tente un pedigree et Cena contre avec un STF. Et à ce moment-là, AJ Styles arrive avec son club, donc Gallows et Anderson. Et grâce à cette diversion, Rollins gagne en refaisant un pedigree. Donc voilà. Rollins gagne et Cena n'est pas qualifié. Et on a une nouvelle fois une illustration du de l'intervention AJ Styles, de l'intervention Gallows Anderson qui coûte la victoire d'un match. Est-ce que vous voulez qu'on parle du match d'après et qu'ensuite on parle des deux ou c'est comme vous voulez.
Parlons du match d'après et puis comme ça.
Alors le match d'après donc c'est Dean Ambrose contre AJ Styles parce qu'en fait ils ont un peu la même construction donc c'est pour ça que je.
Ah bah voilà, fallait le dire.
Voilà. Donc Seth Rollins est au commentaire cette fois-ci. Alors il dit quelque chose d'assez bizarre, j'ai noté dans ses commentaires, il dit peu importe si c'est un triple threat ou un quadruple threat, mais en même temps il dit ça doit être un contre un, moi contre Ambrose, donc c'était un peu étrange. Donc le match plutôt bon qui s'enflamme vers la fin, beaucoup de comptes de deux et Anderson et Gallows reviennent à la fin du match pour faire gagner AJ Styles, mais Cena arrive derrière eux. Et donc réussit à les calmer et Ambrose gagne grâce à un Dirty Deeds. Ensuite Rollins fout un pedigree à Ambrose, AJ Styles et le club défoncent John Cena devant le Titan Throne et voilà, c'est le deuxième match. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ces deux matchs?
Bah c'est vrai que c'est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est deux matchs dignes de pay-per-view, donc là-dessus on était gâtés, c'était vraiment deux matchs très très solides. Voilà, bon, on regardera un petit peu à John Cena qui se fait cueillir comme un bleu par l'intervention des AJ Styles. J'aime bien les mecs, ils débarquent, ils sortent à peine le nez du Titan Tron que les mecs s'arrêtent de catcher, toi. Ce serait bien que de temps en temps, toi, gardent un œil, ils voient un mec débarquer, ils leur gardent un œil, mais toi. Que ça soit au dernier moment, que les mecs commencent vraiment à vouloir intervenir aux abords du ring, avant qu'ils commencent à vraiment se faire déconcentrer. Donc ça, c'est le petit truc qui me fait toujours un petit peu tiquer. Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé la prestation technique de John Cena, Seth Rollins. C'était vraiment un super match. Et j'ai encore plus aimé le... Enfin, j'ai préféré encore le deuxième. Ouais, donc c'était... AJ Styles contre
Ambrose contre AJ Styles.
Ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé la partition de Seth Rollins au commentaire notamment, qui vraiment encourageait. Alors, tu dis au début il savait pas trop sur quel pied danser, mais ah oui. Il encourageait vraiment Dean Ambrose à gagner quoi.
J'en ai pas parlé, il a passé vraiment beaucoup de temps à dire je sais pas qui encourager tout ça, et puis alors vers la fin il était tellement pour Ambrose parce que c'était
ouais, il disait vas-y mon petit, vas-y tu vas gagner, enfin toi il était j'ai beaucoup aimé ce moment là voilà, Seth Rollins. Bon, pas de surprise au final hein, aucun des deux, on n'aura pas ni Jesta ni John Cena dans l'affiche, qui finalement aurait pu être la grosse surprise vu le triple threat avec Roman Reigns qui pouvait être un petit peu voilà en danger. Donc ils auraient pu tout à fait transformer ça en Fatal 4-Way et reporter le fameux triple threat du Shield à plus tard. Hein. Mm-hmm. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé hein, globalement ces deux matchs et le résultat.
Bon, moi je suis moins emballé. J'ai toujours du mal avec Cena, sa façon de survendre les coups en début de match. Là, il se prend un coup de poing, un coup de pied, il reste 5 secondes, 10 secondes par terre, sonné direct.
Ah bah ça, tu le refrappes. Hein.
Ouais, c'est marrant parce que juste sur ce passage-là, Cena, au tout début, je sais plus, il se prend des mandales et en fait, il se relève à chaque fois 3 secondes après pour se reprendre une, etc. Enfin, c'est très bizarre la façon dont
un peu l'impression des fois de voir le match à l'envers, quoi.
C'est ça. Bah, un peu trop survendu, voilà, c'est bien qu'il book fort comme ça Rollins, mais c'est un peu trop survendu à mon goût. Là, c'était déjà le cas contre AJ Styles. Bon, après, vers la fin, bon, il n'y a rien à dire, c'était du bon niveau. Le finish, c'est classique. Pour le Ambrose AJ Styles, c'est pareil, je ne suis pas emballé. Bon, après, ce week-end, moi, j'ai regardé le New Japan et la ROH. Donc au niveau in-ring, forcément, je ne peux pas être trop emballé par ce qu'ils nous ont fait là. J'étais vachement déçu par Ambrose en début de match. Là, je trouvais qu'il n'était pas dedans, il n'avait pas le timing. Et qu'il faisait un peu pitié comparé à AJ Styles. Je pense que AJ Styles, il est nettement au-dessus. Il faudrait quand même qu'il pense à le pusher encore plus.
Oui, oui, oui.
Par contre, j'ai bien aimé le final du show, le fait que les images qui ressortaient avec Rollins qui tenait la ceinture, le pied sur la tête d'Ambrose, et puis de l'autre côté, le club qui était avec un John Cena à terre, comme ça, je trouvais que c'était des belles images.
Images de heel.
Voilà, exactement.
Dominant.
Voilà, parce que j'ai pas tout compris hein, au Raw de cette semaine, mais au moins, bon, le final était pas mal. Voilà, après la performance d'Ambrose, j'ai beaucoup de réserves là sur le coup là. Ouais, je trouve que voilà, Justice il est nettement au-dessus hein. C'était un peu flagrant hein. Ça m'a rappelé certains matchs, ça m'a rappelé un match de Edge contre Chris Jericho à une époque dans une cage où aussi on avait vu les faiblesses de Edge comme ça hein. Mais bon, après déroulement classique, donc c'était pour un final réussi, donc il y a pas, puis les commentaires de Rollins c'était bon aussi effectivement.
J'avais un peu peur au début du match que Rollins fasse de l'ombre en fait, justement au match, parce qu'il parlait pas mal. Mais moi j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai une préférence pour le Seth Rollins Cena parce que je les adore. Enfin, je pourrais les voir catcher les deux. Enfin, autant peut-être Cena, ça dépend des adversaires, mais Seth Rollins, mon Dieu,
j'adore Seth Rollins. Ouais. il faudrait un Rollins et AJ Styles, à mon avis ça va donner du très très lourd.
Mais est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé quelque chose de différent entre le Seth Rollins d'aujourd'hui depuis son retour et le Seth Rollins d'avant, parce que le mec nous avait quand même annoncé son grand retour, c'était Rebuild, et
ouais,
il a annoncé du changement quoi. Et finalement, est-ce que ce changement là
il est moins comment, ouais,
il est un peu plus musclé.
Ah oui.
Oui, ça, voilà, visuellement, après, effectivement.
Après, c'est difficile d'avoir un niveau supérieur à celui qu'il avait. Hein.
Non, mais même dans son personnage, ses attitudes ou son arsenal.
Ouais, non, ça, par contre, je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses, Hank.
Non, il a exactement la même personnalité. Il a le même mélange de lâcheté, de heel, de blagueur, enfin, de vanneur. Il a exactement le même personnage. Après, je pense qu'il a plus... Il a plus de liberté parce qu'il est plus attaché à l'autorité, donc du coup son personnage est un peu moins. Il a pas de
plus gens. Solitaire,
ouais, voilà, il a pas de personnage énervant autour de lui, genre Kane ou même Stéphanie hein, à l'époque qui était difficilement supportable. Mais donc voilà, il est un peu libéré de tout ça, et au niveau du catch, je trouve qu'il est moins aérien. Il fait encore. Je dis pas. Hein, il fait encore. Il est dans le haut niveau des mecs qui jouent. Enfin, qui sautent souvent de la troisième corde. Mais il est. On sent qu'il prend moins de risques. Enfin, il est hors démarrage, quoi. Il prend moins de risques qu'à une époque où. Quasiment toutes les semaines, tu le voyais sauter sur une table ou faire, ouais. faire des trucs pas possibles. Mais donc voilà. J'ai trouvé Sina, même si voilà le début du match, il en faisait peut-être un peu trop. Mais sinon, Sina, il a vraiment. C'est vraiment la fluidité des enchaînements qui franchement marque quand tu vois Cena Rollins, les mecs ils sont enfin tout est vraiment millimétré à part quand il lui casse le nez, mais sinon
c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être pour ça qu'il fait plus de coups de genou violents, hein. La dernière fois il lui a pété le nez parce qu'il est un petit peu mollo cette fois-ci, hein, parce que...
Ouais. D'ailleurs, ouais. J'ai dû en parler peut-être dans le podcast, mais Rollins en interview je sais plus où c'était peut-être dans son documentaire, il dit que John Cena est plutôt maladroit sur le ring et que donc voilà, c'était
ah oui, c'était lui qui avait sur le
il est resté la tête penchée un peu trop longtemps. Ouais. Enfin bref, on va passer aux femmes, et oui, les women, pour Paige et Sasha Banks contre Charlotte et Dana Brooke. J'ai noté alors vous allez peut-être pas être d'accord, un très bon match pour moi. On met en valeur donc la rivalité Banks contre Charlotte. Clairement cette fois-ci, je trouve. Paige fout énormément de mandales et de kicks superstifs à Dana Brooke. Brooke, j'ai noté, ne botche presque pas, ce qui est remarquable cette semaine. Il y a eu juste un moment
où. C'est tout
ce
qu'on lui demande. Hein.
Ouais, voilà. Juste un moment où Sacha lui a fait un coup de pied et elle l'a un peu scellé un peu tôt, mais sinon. Donc Sacha fait beaucoup de comment ? J'ai noté de taunt. Enfin bref, de
provocation.
De provocation, exactement. Voilà. De provocation à Charlotte pendant tout le match, en fait. Elle se fout beaucoup de sa gueule. On voit donc que Sacha remonte un peu son jeu, hein, au niveau catch. Enfin, en même temps, elle vient de revenir, mais j'ai trouvé que elle était plutôt efficace, et surtout Charlotte qui est là cette fois-ci beaucoup plus rapide sur le ring que d'habitude. Le public a très bien réagi aussi parce qu'il y avait Sasha Banks, ce qui est aussi assez original, hein, pour un Raw, parce que le public avait repris ses habitudes de dormir pendant les matchs des femmes ces derniers temps, et donc on a repris un peu d'intérêt. La fin du match, c'est Sasha qui gagne sur le Banks Statement porté sur Dana Brooke. Voilà. Les mots ne résument pas bien le match, mais si vous pouvez, regardez-le, parce que ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu un bon match des femmes à Raw.
Ouais, tout simplement pour se remettre dans le bon sens, quoi, toi. Parce que c'est vrai que ce qu'on nous a proposé la semaine dernière, c'était relativement pathétique. Là, on a un match qui dure presque 10 minutes. Donc, ce qui n'est pas rien, parce que finalement, c'est le troisième match le plus long après les deux main event, si je puis dire, dont on vient de parler. Donc, ça c'est bien. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on a remis ou tenté de remettre tout le monde fort, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Sasha Banks et Paige, j'ai bien aimé aussi le boulot qu'a fait Paige, cette volonté de la garder quand même costaud et solide. C'est important à mes yeux, toi, de ne pas avoir simplement deux catcheuses qui sont les catcheuses, on va dire, qui vont se battre pour le titre au prochain pay-per-view, fortes et solides. Et puis du coup, dès qu'il y en a une des deux qui a perdu, quelle est la prochaine prétendante, et ça sortait du chapeau, toi. Là, c'est bien de montrer que voilà, y a pas que Sasha Banks et Charlotte, y a aussi Paige. Bon, elle a eu sa chance la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, sans succès, mais voilà, c'est bien. Et puis on verra plus tard que y a pas eu que cette affiche là pour les filles. Et voilà, donc bah, voilà, moi je suis ravi, rien que ça, voilà. On part dans le bon sens. Je suis impatient que voilà, c'est dommage en fait que Charlotte ait perdu de sa superbe, si je puis dire, et avec les voilà, les derniers plus perdus sa storyline avec Natalia. Mais je compte sur le prochain pay-per-view là, sur Battleground, pour la rebooker une dernière fois vraiment très fort, en tout cas les semaines qui viennent, pour c'est, voilà, pour avoir vraiment une rencontre entre Charlotte et Sasha Banks au plus haut niveau, quoi.
À la révolution des divas, ça passe par Sasha Banks et puis c'est tout. Hein. Voilà, elle est de retour, c'est tout de suite, ouais, mieux. Et voilà, bah, si, tant qu'elle sera là, ça sera intéressant de regarder les gonzesses.
Les gonzesses. Voilà. Non mais qu'est-ce que c'est, on est pas sur un,
je suis le misogyne de beauf. Je suis le misogyne des cahiers du catch. Je ne sais pas si vous savez.
Chacun son gimmick. Hein.
Voilà, qui est faible.
Le Val Vénice, voilà. Du podcast, quoi.
Non, mais voilà, ouais, c'était pas très bon pendant quelques mois, et puis voilà, Sasha Banks arrive, et puis tout va mieux.
Ouais, après toi, c'est justement, c'est ça qui me... Sasha Banks, je l'adore, hein, y a pas de là-dessus, mais moi, j'ai pas non plus envie, et je pense pas d'ailleurs qu'il y ait que Sasha Banks pour porter... cette fameuse révolution, toi, hein, ce que je veux dire.
Ouais, mais sans elle, il se passera rien, je pense, hein. Ouais, les autres, elles sont douées, mais elles ont pas le petit truc qu'elle a, elle.
Non, bien sûr, oui, qu'elles deviennent un peu le porte-étendard de cette révolution aux yeux des fans, ok, mais j'ai pas envie que ça soit le cas non plus aux yeux des bookers, toi. Je veux dire, Charlotte aussi représenter cette révolution, quoi. C'est quand même elle qui a porté le titre de Woman Champion, et c'était pas anodin, je trouve. Et c'est dommage quand même ce qu'ils ont fait avec Charlotte. Ok, Sasha Banks c'est pas là. Et alors, toi, y en a d'autres qui sont là, qui sont soit déjà là ou qui vont arriver. Et voilà, j'ai envie qu'il n'y ait pas que Sasha Banks. C'est pas ce que je veux dire.
Ouais, ouais. Il y a Bayley, hein, qui est en attente. Il les laisse stagner à NXT. Tant qu'il les laisse stagner là-bas, au lieu de faire monter Dana Brooke, voilà, fallait réfléchir un petit peu. Mais effectivement, après Becky Lynch et Charlotte, elles sont bien, mais ça fonctionne quand il y a Sasha Banks vraiment. Hein, sinon,
Non, mais clairement,
ça reste un peu léger.
Clairement, il y a un manque dans le roster féminin, mais ils ont comment? Ils avaient fait un bon début. Je pense qu'ils n'auraient pas dû laisser autant de temps entre l'arrivée de Becky Lynch, Sasha Banks c'est tout. Je sais plus. Mm-hmm. Et Charlotte. Becky Lynch, Sasha Banks et Charlotte, elles sont arrivées. Bon, normal qu'elles se battent contre voilà, les anciennes, les divas. Mais ils auraient dû faire venir du 109 assez rapidement pour faire la transition totale, et on n'est pas passé à la transition totale, on est passé à une espèce de la révolution, c'est le purgatoire, quoi, semi-révolution où on fait bosser des divas avec des filles d'NXT et donc du coup ça donne des choses peut-être un peu moyennes, et puis aussi leur storyline était tellement mal écrite, enfin quand ils sont arrivés, ouais. C'était genre on est trois copines, déjà les mettre ensemble c'était un peu risqué parce qu'on a quand même tout le talent rassemblé dans la même team qui donc du coup peut pas
s'annuler
battre,
en fait
l'un contre l'autre,
les talents s'annulaient du coup,
c'est ça
elle s'effaçait l'une l'autre, quoi. C'était il y avait pas chacune ne montrait pas son propre caractère parce que enfin, clairement avant qu'elles débarquent elles avaient vraiment des rivalités un passif qui faisait que chacune avait déjà une place. Après, tu dis qu'effectivement, on n'a pas fait monter peut-être assez de monde, ou je ne sais pas, mais ils ont quand même refait monter, bon, ok, Dana Brooke, mais il était remonté avec Emma, qui avait quand même refait, on va dire, une reformation.
C'est un gâchis. Ils sont en train, enfin, j'espère vraiment qu'ils vont rattraper le coup, mais c'est tellement un gâchis ce qu'ils ont fait avec Emma, quand elle est revenue. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait revenir au milieu d'un troupeau de divas. Dans un c'était
ah,
quoi
oui.
déjà
c'était le, un dark match voilà à WrestleMania quoi Divas Team versus les Bad and Blonde un truc toi
et ça commençait à peine à s'améliorer quand il y a eu ce début de feu avec Becky Lynch. Puis bon, après, il y, y, y a la blessure, mais...
ouais, ça, on peut, effectivement.
Quitte à... Ouais. Et quitte à... Quitte à comment... À un peu faire de mal à NXT, bah, il aurait fallu faire monter... Enfin, je veux dire... Alors, ok, c'est bien qu'elle soit championne, mais Asuka, mais elle dynamiserait tellement, tellement le truc aussi.
Ouais, sois patient, parce qu'il faut aussi assurer la relève à NXT, tu vois ce que je veux dire. On peut pas siphonner tout NXT d'un coup. Bailey va probablement
monter. C'est bon, il y a Alexa Bliss. Il y a Alexa Bliss.
Ouais, mais toi, Alexa Bliss, c'est la relève de la relève, quoi. Toi.
Ouais.
C'est... Non, mais c'est ils ont un bon roster, mais effectivement, il est assez, c'est en enfilade, quoi. Si tu veux. Donc, déjà d'avoir fait monter les trois quasiment en même temps, c'était un gros coup. Et même moi, à l'époque, je me souviens, j'avais trouvé ça que c'était limite trop, toi, avec Stéphanie qui énonçait les noms. Tu t'es dit, mais attends, ils sont en train de tout siphonner NXT. Ils vont pas savoir quoi en faire. C'est un peu ce qui s'est passé. Plus les accidents, plus le mauvais booking, les storylines à la con.
Et on parlait de kayfabe, et justement, là, il y avait une grosse erreur de kayfabe, quoi. À l'arrivée de Banks, Lynch et Charlotte. C'est que on les a présentés, genre, et voici la relève des divas, attention, c'est les vraies catcheuses et tout ça, et on les adore. Et tu fais, genre, dès le début, alors non seulement elles sont toutes amies entre elles, en plus les dirigeants les adorent. Enfin, c'est-à-dire, voilà comment annihiler le charisme de.
Non, de toute façon, clairement, ils ont fait un faux départ. Là, tout le monde était d'accord là-dessus. Je me souviens, voilà, tout le monde avait trouvé que c'était vraiment un faux départ. Hein. On se demandait vraiment, attends, dis-moi la révolution, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ça fait un faux départ. Voilà. Au bout de 100 mètres, déjà, on s'essouffle. Bon, là, pour partir. Voilà. Je reste confiant, hein, clairement, avec Sasha Banks, comme tu dis. Je veux pas que tout tourne sur Sasha Banks, mais s'il faut que ça passe par Sasha Banks, bah, que ça passe par Sasha Banks. Hein. Tant mieux, hein. Tant mieux.
Et puis, au moins. Oui, t'allais dire ?
Non, je disais exactement. J'acquiesce.
Et puis au moins, Charlotte, même si elle n'a pas eu un très bon règne, au moins, son personnage a évolué et elle a... Il y a un peu plus de profondeur chez elle. Maintenant, il va falloir fouiller un petit peu le personnage de Sasha Banks parce que c'est une très bonne catcheuse, mais voilà, faut lui donner un petit peu des raisons de se battre. Enfin, bref. On va passer au match suivant. Le Titus O'Neil contre Rusev la semaine dernière. Titus a complètement détruit Rusev qui s'était moqué de la famille de Titus O'Neil. Titus, en arrivant sur le ring, saute directement sur Rusev avant même que la cloche sonne. Et donc on a pas de match, mais un gros combat un combat de tank. Parce que c'est deux mecs super baraques qui se foutent des grosses mandales, des clothesline, des coups d'épaule.
On dirait cette pub pour World of Tanks, tu sais, le jeu, le MMO de chars d'assaut.
Est-ce que tu veux un catcheur qui fait trois coups, mais très violemment?
Exactement.
Donc, je dis le match commence pas. Si au final le match commence quand même après un peu d'embrouille sur le côté du ring. Et donc, à un moment, Titus, dans un nouvel effort de gros tank américain, balance Rusev dans la Tank Keepers Area. Donc des gens qui tiennent la cloche et donc il remonte sur le ring et il gagne par compte à l'extérieur, enfin décompte à l'extérieur. Donc la rivalité Rusev Titus continue. J'ai trouvé ça, d'habitude je vous demande votre avis en premier, mais là ça va être rapide. Moi j'ai trouvé ça bon, moyen, mais pas ça m'a pas gêné, c'est plutôt marrant de les voir se défoncer la gueule. Par contre, est-ce que ça va tenir 10 minutes dans un pay-per-view? Je sais pas, mais voilà, quand ça dure 2 minutes comme ça et que c'est un gros truc de bourrin, bon.
Ouais, c'est ça. Non, mais vite qu'on passe à autre chose pour Rusev, vite s'il vous plaît, là ça devient gênant. En plus là il perd Ah, je sais pas, c'est drôle de booking quand même. On veut le remontrer. Alors, il perd par décompte à l'extérieur, ok, d'accord, parce qu'ils se mettent sur la tronche, mais ça relance la rivalité. En plus, j'ai toujours du mal avec le fait qu'un mec qui a un title shot perde et derrière, bah, il continue sa rivalité et pour probablement en avoir un deuxième. Si c'est justifié, d'accord, mais là, enfin, il n'y avait pas photo, hein, je me souviens, le Rousseff avait perdu, avec gagné clean contre Titus O'Neil, il me semble, donc, lors du pay-per-view, enfin, bon, voilà, ouais, qu'on passe vite à autre chose.
Et tu comprends pas, il a insulté sa famille!
Ouais, c'est ça! C'était gênant.
Maintenant, il a le pouvoir, mais c'est l'Amérique, tu vois. C'est le pouvoir genre, de la foi en la famille et la patrie et tout ça, quoi.
Bah, ce qui est gênant, c'est que c'est Rousseff qui fait tout le match, hein, surtout. Hein. Titus, il fait rien du tout. Hein. Tu dis qu'il le balance à travers la barrière de sécurité, là. C'est Rousseff qui se jette dans la barrière. Hein. Titus, il s'enlève, mais il est déjà même pas devant. Il fait rien du tout, quoi, Titus. Hein. Voilà, c'est nul. et puis, je sais pas, s'ils vont nous faire ça en pay-per-view, ça va être... Voilà, il y a mieux à faire que ça quand même. Hein.
Ouais.
Je suis méchant, hein, mais.
Vous inquiétez pas pour les auditeurs du podcast. Peut-être qu'il y aura Giscal la semaine prochaine pour.
Voilà, pour remonter pour un peu. Je dis pas la sale note de merde que je vais mettre au show. Hein.
Un peu de positivité.
Giscal, s'il te plaît, reviens. Parce que le podcast, il a besoin de toi.
Sina aussi, il a besoin de lui. donc là, on va passer. À une séquence que vous attendez chaque semaine, qui n'a pas été très bien scellée, je trouve, la semaine dernière. C'était un petit peu genre, ouais, on va passer à la séquence, blablabla.
Attends, voilà, il débutait, c'était nos deux apprentis qui débutaient dans le hosting de podcast. Ils sont très bien débrouillés, d'ailleurs, j'en profite.
Non, mais c'est très bien. Mais,
vous sévère, entendez... mais juste, Hank.
Sévère, mais juste. Viril, mais correct.
Viril, bon. Viril, j'en sais rien.
Allez, vous entendez la musique arriver au loin, c'est le Jobber's World, le monde des jobbers.
Aujourd'hui, que ça avait déjà commencé.
Oui, mais je n'ai pas prononcé, tant que je ne prononce pas le nom de la séquence, elle ne commence pas. Aujourd'hui, un Jobber's World, je vous préviens, il y a des non-jobbers dans ce Jobber's World, parce que c'est un petit peu un mix. Nous avons eu Enzo et Cass qui arrivent et ils vont se battre contre des locaux, c'est pour ça que je l'ai mis dans le Jobber's World. C'est des extra jobbers parce qu'on ne saura jamais leur nom.
C'est vraiment des jobbers là pour le coup.
Voilà. Enzo dit que le public est la vague qui les portera au sommet de la WWE. Et donc il demande au public pendant le match de faire une hola. Enfin une vague, donc une hola. Squash de 30 secondes avec une combinaison de casse qui balance Enzo sur un inconnu. Donc. Et donc les mecs sont jamais cités. Et à la fin, bien sûr, il les traite de soft, ce que j'ai trouvé particulièrement cruel, parce que les mecs, on sait pas leur nom, on les a à peine vus, franchement, dans la réalisation du match.
Je sais pas si on a vu les deux. Visage.
On a même pas vu leur visage, et en plus, voilà, on les traite de soft. Et à ce moment-là, donc là, on a la deuxième couche jobber, c'est-à-dire les social outcasts qui arrivent. On rappelle que social outcasts, maintenant, il n'y a plus que Bo Dallas, Curtis Axel et Heath Slater. Bo Dallas dit qu'il y a un mot pour les décrire, et ce n'est pas soft, c'est hard. et donc, ils disent qu'ils reviennent du set de Marine 5. Non, pas, j'ai pas dit Maroon 5, hein, The Marine 5, c'est-à-dire le film où il y a le Miz. Prochainement sur votre. J'allais dire sur votre network. Enfin bref, dans votre boutique de location. De location de DVD, voilà. Enzo, donc, en profite pour se foutre de leur gueule en disant alors vous êtes hard, parce que hard, ça veut dire avoir la gaule. En américain aussi, enfin parmi les définitions du mot. Cass demande qui est le plus hard dans les social outcasts, et ensuite ça part en baston. Donc voilà, et les social outcasts se tirent juste après. Ensuite, nous avions Becky Lynch contre Summer Rae, et une nouvelle fois, hein, mi-jobber, mi-pas-jobber. Becky Lynch arrive donc vers Summer Rae pour débuter le match, mais directement part du ring pour attaquer Natalia, qui se trouvait à la place de commentateur. Donc elle lui gueule... t'as fait chier la mauvaise catcheuse, je vais te dégommer la tête ou un truc comme ça. Enfin bref, elle est super vénère. Donc voilà, elle prend un petit peu le dessus physiquement, ce qui est assez rare hein, pour Becky Lynch qui se fait traumatiser toutes les semaines. donc voilà, c'était sympathique. Ensuite, nous avons une nouvelle fois mix jobber, pas jobber. Cesaro et Apollo Crews contre Del Rio et Sheamus.
Tu vas fort là quand même.
Alors ouais, non mais j'y vais très fort, mais en même temps le comment la façon de booker Del Rio et Sheamus ces derniers temps était pas loin de Jobber quand même. J'ai trouvé. Donc un affrontement finalement pas si mauvais. Hein. Le public se réveille un petit peu quand Cesaro reprend la main, et puis aussi pour supporter un petit peu Del Rio hein, qui a toujours sa petite cote. Mais sinon ça reste quand même assez calme dans le public. Vers la fin du match, Del Rio s'en va et laisse Sheamus tout seul. Cruz balance des marches en fer sur la gueule de Sheamus. Hein, il fait une espèce de saut sur les marches et voilà. Il fait ensuite son finisher sur Sheamus. Victoire de Cruz et de Cesaro. Et je rajoute, parce qu'il n'y aura pas de séquence Nawak cette semaine, Darren Young et sa célèbre séquence. Make Darren Young great again. Il dit qu'il veut gagner un titre individuel à WWE. Ensuite, j'ai noté Bob Backlund dit de la merde comme d'habitude. Et à la fin, ça fait beaucoup marrer JBL et Byron Saxton. Donc voilà, c'est la fin du Jobber's World.
Wow, sacrée séquence là.
Expéditif. Hein. Voilà, t'as une soirée après, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais l'orage se rapproche visiblement. Et comme c'est est sur son balcon. Ouais.
c'est le principe du Jobber's World. Normalement, on n'en parle pas. Mais on va repasser à de la vraie discussion avec une formidable séquence avec Stéphanie qui croise Kane dans les coulisses parce qu'elle fait ça elle le croise toutes les semaines. Hein. Je ne sais pas comment la sécurité fonctionne à WWE, mais Kane arrive toujours à se faufiler. Et il demande encore d'être GM, je crois, de SmackDown. The Miz arrive pour la première fois, on le voit dans le show depuis, je ne sais pas, ça faisait au moins un mois, voire un peu plus. Parce qu'il était sur le tournage du Marine 5 et non pas Maroon 5. Il se plaint du fait qu'il n'y a pas eu de tapis rouge pour l'accueillir et du chauffeur de la limousine qui n'a pas ouvert la porte, tout ça. Kane a l'idée d'organiser un match pour la ceinture intercontinentale, donc que le Miz a sur lui, ce soir. Et Steph lui dit « C'est une bonne idée, Kane. On va faire un match pour la ceinture, mais je ne te dirai pas qui est l'adversaire, mon cher Miz. Ce sera une super surprise. On va passer donc au match et deviner ce booking de génie. C'est bien entendu le Miz contre Kane. Donc j'ai noté, la WWE ne finira pas de nous emmerder avec Kane. Maryse, au milieu du match, se fait mal. On ne sait pas vraiment pourquoi, elle le vend très très bien. Genre elle tombe, elle était sur le rebord du ring et elle tombe comme ça tout d'un coup. On croit.
Ah oui, t'as trouvé qu'elle avait bien vendu.
Mais en fait, c'est pas que j'ai trouvé qu'elle. En fait, j'ai trouvé que si c'était du faux, ça aurait été tellement mal vendu que c'est juste pas possible. Donc du coup, je me suis dit, c'est vraiment genre, tu peux. Par malchance ou je sais pas quoi tu peux te faire mal sur le rebord du ring ou je sais pas, enfin bref, j'ai trouvé la séquence tellement bizarre, je vais la raconter en entier. Et donc le Maryse donc du coup sur le bord du ring, tout d'un coup, elle a une jambe qui lui fait mal et elle tombe comme ça par terre. Et le Miz arrive vers elle et lui dit « ça va, qu'est-ce que tu t'es fait ?» etc. Elle arrête pas de crier. Et donc, le Miz part du match comme ça, avec Kane qui fait une tête toute pato, genre « bon
». Bah, il part, il transporte sa belle, sa dulcinée en lieu sûr.
Voilà, donc il fait une bonne action de face, alors, finalement. Mais, mais juste après, on voit dans les coulisses le Miz qui parle encore à Maryse, qui lui dit « Et alors, comment ça va? T'as toujours mal, etc. On va aller voir les docteurs et tout. » Et là, Maryse, qui était soi-disant en train de pleurer, se met à rire et elle lui dit donc du coup que c'était du faux. Et là, il dit « Oh, tu mérites un Oscar, tu es la... la meilleure femme du monde, je t'aime, tout ça. » Et donc voilà, c'était très mignon. On aurait pu se passer du match même, hein, mais bon. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, à limite, j'avoue que cette séquence n'était pas forcément plus intéressante que des trucs que j'ai mis dans Jobber's World. Mais...
Oui, mais bon. Après, bon, le match, aucun intérêt, mais les séquences backstage... c'était vraiment super, quoi. On retrouve vraiment le Miz et Maryse qui nous avaient un peu manqué. Enfin, moi, je trouvais voilà qu'ils étaient bien rodés, les deux-là. Effectivement, quand il arrive, là, en arrière-plan, en plus, toi, il se passe une scène, et puis on les voit arriver en arrière-plan. Je trouvais ça plutôt bien vu. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit encore Ken qui postule pour le poste de GM. J'avais l'impression qu'on partait sur une espèce de fil rouge avec plusieurs prétendants qui venaient chaque semaine pour un peu faire valoir leur CV et, pour prendre les rênes du show rouge ou du show bleu. Là, Ken qui revient une deuxième fois, bon, c'était un peu moins enthousiasmant.
Quelque chose me dit que Heyman a refusé. Hein.
Non, mais si je me souviens bien, dans d'autres numéros de Catch Up, on avait cité quelques noms, notamment Vicky. Alors, je sais pas, on est d'accord, elle est pas venue encore, Vicky.
Non.
Ok. Non. Et ou bien d'autres, Mick Foley ou d'anciens GM.
William Regal, quelqu'un comme ça.
Ouais, pourquoi pas William Regal, peu importe, ouais, vraiment. Et là, faut refaire venir Ken. Bon. Okay.
Le GM anonyme.
Ouais. Mais oui.
Hans Wagel.
Nous faire. Non, mais c'est l'occasion de faire un peu plaisir aux fans qui suivent le show depuis plusieurs années, de revoir d'anciennes têtes, d'anciens visages. Quand John Laurinaitis est revenu, j'ai adoré, toi. Peu importe, effectivement, Vicky reviendra peut-être pas parce que il y a plein de raisons qui font que certains pourraient plus facilement revenir que d'autres. Mais voilà.
People power!
Ouais, non, mais c'était super, toi. Tu veux pas de moi, et puis il repostule pour l'un, et je le repostule pour l'autre. Enfin voilà, je trouve que ce serait l'occasion de revoir plein de visages, et je trouve ça un peu dommage. Par contre, ce qui est cool, c'est le Miz qui revient, c'est derrière un titre intercontinental. Il faut trouver maintenant un prétendant en espérant que ce soit pas Kane.
C'est ça. pas de Miz Kane en 2016, s'il vous plaît. Pour la petite histoire, Finn Bálor avait tweeté qu'il était dans les coulisses avant le show. Donc je pense que les gens sur place ont dû bien s'attendre à voir Finn Bálor débarquer en.
Oh, ça aurait été tellement bon.
Voilà, mais non. Plutôt Kane. Kane Miz en 2016, c'est pas possible. Hein. Faut faire autre chose que ça. J'espère vraiment qu'on va pas rentrer dans une rivalité entre les deux parce que.
Espérons que ce soit un one shot, toi.
Non,
le segment comique.
Non, c'est pas possible.
Ouais, non, bon, croisons les doigts. Et puis, moi, j'ai clairement entendu le Miz ou l'arbitre dire à Maryse de tomber, hein, juste avant qu'elle chute, donc.
J'ai pas dû faire attention au match en fait pour.
Ouais, peut-être ça. Moi j'avais le casque sur les oreilles, donc je pense que j'ai entendu. C'était à part les segments backstage, c'était nul quoi. Mais.
Je crois que Ringside a pris l'option premium du network avec le son en 7.1.
C'est ça.
Bon, enfin, tu dis à part les segments backstage, c'était nul. Les segments backstage, c'était la moitié.
Ouais, bah, la moitié était nulle, l'autre.
Voilà. Non, mais tu vois débarquer Kane, bordel.
Avec, j'ai pas précisé, il avait son masque. Hein, c'était
il
pas
avait son masque, c'était Damon Kane, hein, comme ils l'ont annoncé. Voilà. Et puis quand Maryse débarque, ne faites pas de plan sur le public. Laissez-nous regarder Maryse, bon sang. N'importe quoi.
Ringside, les gonzesses et Ringside.
Bah, elle est là pour ça, elle est là pour montrer sa plastique un petit peu, puis faire des...
Ouais, non, carrément toi, attends.
Oh là là, comme vous êtes. Ouais, non, bah voilà, espérons que c'est un one shot, hein. C'est tout ce que j'espère.
Et on espère aussi que Finn Balor va se grouiller d'arriver. En plus, vu qu'il a une place toute, enfin, il a une rivalité toute faite du coup avec le Miz là, ça serait plutôt sympa de voir. Surtout que le Miz pourrait se moquer allègrement du maquillage de Balor et tout ça. Enfin, ou lui donner des conseils maquillage même. Enfin bref, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées à avoir.
C'est sûr, Finn Balor qui débarque dans la title picture intercontinentale. Ce serait un bon coup, ça c'est certain. Mais bon, attendons encore un petit peu. Trouvons un autre prétendant que Kane et Finn Balor pour le Miz pour le pay-per-view. D'ailleurs, je sais pas si vous avez une idée, mais de prétendant qui pourrait être challenger au titre, qui reste plus que deux ou trois semaines.
Ouais. J'ai pas beaucoup d'idées, je pense que les bookers ils en ont pas non plus. Hein.
ça sent la petite bataille royale ou un truc comme ça.
Ouais, c'est là qu'on voit qu'il manque de big guy. Tu vois, le mec vraiment impressionnant pour sortir comme ça. Quand t'attends quelqu'un que tu sais pas qui ça va être. Quand un mec débarque, je pense qu'ils ont lancé Kane parce que Kane, à la base, c'est gros monstre quasiment imbattable, quoi. Sauf que maintenant, quand il arrive, il impressionne plus personne, quoi. Donc,
Mark Henry, ça fonctionne pas peut-être.
Ouais, voilà. Mais Mark Henry aussi, il se fait vieux, hein.
Ouais, donc, bah, des trois, avec Big Show, Kane, des trois, c'est celui qui reste encore le un peu crédible, on va dire.
J'allais dire, le truc qu'on oublie là-dedans, c'est que le dernier mec, enfin les deux derniers qui sont disponibles, qui étaient dans la title picture pour l'intercontinental, c'est Jericho. Bon, Jericho, il fait son spectacle, hein, on va en parler juste après. Donc il a pas vraiment besoin de gros matchs, hein, mais on a Cesaro qui du coup est un petit peu dans la...
Ah bah
là,
pour
il,
moi,
il, repart, ouais, il repart un petit peu dans la spirale de j'allais dire pas de jobber mais de worker, c'est-à-dire genre le mec qui fait des beaux matchs que tout le monde aime et machin, et attention parce qu'après il y a la zone Ziggler, hein. Faut pas arriver dans la zone Ziggler.
La Ziggler zone.
C'est comme la friend zone mais dans le catch.
Twilight zone. Non mais c'est vrai que Cesaro était, enfin voilà, avec ce qui s'était passé, tout le booking qui avait été fait avant le départ du Miz. Voilà, laisser penser que il allait rester dans la title picture avec pour le titre intercontinental. Malheureusement, le départ, enfin l'absence du Miz a fait qu'il a fallu l'occuper à autre chose. Et là, il n'y a pas eu d'interaction entre les deux pendant ce rôle-là. Je serais très content aussi que Cesaro aille chatouiller le Miz et remporte le titre, toi. Ce serait aussi une bonne chose, quoi.
Là, l'euro prouve que non, quoi. Enfin, parce que si tu ramènes le Miz et que tu fous Cesaro bien avant dans le show et qu'il y a aucune interaction, il y a aucun sous-entendu ou quoi que ce soit, c'est un peu.
Ah oui, non, mais clairement, je pense que les bookers ont oublié, comme la plupart des publics ont oublié qu'il y avait une feud naissante ou en cours entre Cesaro et le Miz. Et ça sent la bataille royale ou une connerie du genre fait pour booker un challenger. Et peut-être que ça sera Cesaro aussi, toi. Mais... Bon.
Et parlons d'un moment, d'un court moment très corporate. La WWE fait un partenariat avec Special Olympics, les Jeux Olympiques pour les gens atteints de maladies mentales. Et j'ai trouvé que c'était une bonne touche que Stéphanie ne soit pas là pour présenter, hein, parce que... Stéphanie, en ce moment, hein, c'est un petit peu je hais tout le monde. Donc, c'est René et Big Show qui présentent ça. Et j'ai trouvé un peu bizarre que Michael Cole appuie à la fin. Il dit Very Special Olympians.
Ah, c'est vrai, il a dit ça. Oh non. Michael, qu'est-ce que tu nous fais, Michael?
On a compris, spécial, ça veut dire handicapé, arrête.
Je suis spécial.
Voilà. Bon. Après cette séquence émotion, Jericho donc présentait le highlight reel ce soir-là avec Sami Zayn et Kevin Owens qui sont toujours en rivalité. Donc Sami arrive et il dit qu'il faut arrêter cette rivalité qui pourrit la carrière des deux catcheurs, et je suis totalement d'accord avec lui parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans un match ces derniers temps, je dis ça va pas être Owens ni Zayn parce qu'ils vont se foutre sur la gueule et ils auront pas la ceinture ou la mallette ou tout ce que vous voulez.
En fait, Sami Zayn était le porte-parole de Hank ce soir-là.
Voilà, Sami, je murmure à l'oreille des Sami Zayn. Et donc, Sami Zayn dit qu'il faut en finir à Battleground. Et il demande à Owens de lui dire la vraie raison de sa trahison. On serait un petit peu une soap opéra plutôt. Donc voilà, parce que pour Sami, la vraie raison, c'est que Owens était jaloux de lui, parce que Zayn est arrivé un an et demi avant lui à la WWE. Et Kevin Owens, qui est particulièrement silencieux pendant ses peut-être 3 minutes de promo de Sami Zayn, il répond ensuite que c'était juste du business. Et que finalement, c'est Zayn qui a tort, parce que c'est Zayn qui n'a pas compris quand Owens l'a trahi, que voilà, il faisait ça juste pour pour monter dans les échelons, etc.
À
donc
titre
bref,
professionnel.
À titre professionnel. Et donc du coup voilà, on a finalement deux raisonnements qui se valent. Et une séquence très, je vais pas dire jusqu'à émouvante, mais ça se prenait très au sérieux. J'ai beaucoup aimé le fait que Owens n'était plus dans le côté narquois, pas une touche d'humour ou quoi que ce soit. Il était genre sérieux et on a eu du coup cette promo qui était, double promo qui était très basé sur la psychologie puis sur leur rapport et pas simplement sur le côté guéguerre, je veux me venger de toi, tu veux te venger, etc. La seule ombre au tableau, on va dire, c'était le côté un peu grand guignol de Jericho, mais ça c'est son truc en ce moment qui leur demandait beaucoup. Alors cette gêne qu'il t'ait trahi, et donc à la fin Jericho sort une petite tirade à Sami Zayn en lui disant: tu sais ce que je déteste en toi, c'est que tu respectes le public. et donc voilà, et que en clair il le traite de débile ou un truc comme ça, et il dit: ça m'énerve tellement que tu sois gentil, j'ai envie de te baffer. Et donc à ce moment-là, il dit: mais je vais pas te baffer, tout ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais vous donner le gift de Jericho. Et à ce moment-là, on a un très bon moment où Owens et Zayn font un kick dans la tête de Jericho. Et voilà, ils repartent chacun dans leur chemin. Et donc Owens, bien sûr, j'ai oublié de dire, Owens a accepté le match à Battleground. De toute façon, c'était obligé. Donc ce sera la véritable fin de cette feud. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment ?
Ouais, comme tu dis, vraiment beaucoup de psychologie dans ce segment. C'était très intense, hein, comme tu dis, Kevin Owens, son jeu, le jeu de Kevin Owens, tout en silence. On sentait vraiment que là, on touchait une corde sensible. Et j'aime beaucoup justement cet aspect-là de comment une amitié peut être un peu chamboulée. Enfin, toi. Quand deux carrières sportives se font face, et j'ai beaucoup aimé, vraiment, ouais, t'as raison, ouais, cette séquence là, il y avait beaucoup beaucoup de psychologie, et ça, c'est en plus le super kick, le double super kick parfaitement synchronisé là, à la fin, ça a vachement libéré la séquence, quoi, moi j'étais à fond dedans, et je sentais, j'avais envie que les deux, enfin, tout d'un coup, je voyais une espèce de tag team, toi, entre les deux. Et je me suis dit, mais super, enfin, un jour, on l'aura, j'en suis persuadé, cette tag team entre Sami Zayn et Kevin Owens. Évidemment, pas tout de suite. Évidemment que, on va se taper, là, encore un dernier match. entre les deux. Et après, on espère tous, j'ai l'impression, que les deux vont être séparés par par le brand split pour le bien de la rivalité de voilà de des deux et aussi pour leur carrière solo. Et comment dire, mais vraiment ouais, c'était une super séquence. Et voilà, par contre je suis un peu cette histoire de, enfin je sais pas, ce dernier match là je m'y attendais pas trop, j'en avais pas forcément envie, d'autant plus, alors attendez, est-ce que la, vous allez m'aider là, mais le brand split il a lieu avant Battleground, mais d'accord. Il me semble que c'est juste avant Battleground, c'est le 18.
C'est juste ouais. Avant Battleground, ouais.
Mais voilà. Justement, j'ai pas précisé, ou alors c'est ma mémoire qui fait défaut, mais Zayn il parle bien de, justement, il dit bien, il faut qu'on organise ça avant que
avant qu'on
soit peut-être séparé,
ouais.
Avant ouais. De partir.
Ouais, donc du coup, ouais, c'est pas très cohérent tout ça. Je pense vraiment que ce brand split a été un petit peu mal placé en termes d'agenda. Mais voilà, donc ouais, ce fameux dernier match qui est comme NXT là, c'est the end of the beginning quoi. Donc voilà, je trouve d'ailleurs un peu dommage, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça un peu dommage que Kevin Owens a perdu son match contre Sami Zayn, je crois, en Raw, c'est la semaine dernière, je sais plus quoi, vous en avez parlé dans le dernier
catch-up.
Je crois
que c'est ça, ouais.
Je trouvais ça un peu dommage parce que je crois que Sami Zayn dans sa carrière a très très peu de fois battu Kevin Owens. J'aimais bien le fait que voilà qu'au début il ait du mal à le battre. Donc j'aurais préféré que ça reste comme ça, en tout cas pour cette première partie de rivalité.
Donc après ouais, il avait un paquet de défaites dans la poche, hein, Zayn.
Ouais, mais il y a pas que Kevin Owens à battre, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ils auraient pu faire un autre match plutôt que refaire ce match-là. Ah, effectivement, c'est à la base, je pense que c'est une mauvaise idée de continuer sur cette rivalité, mais quand c'est bien fait comme ça, ouais. Tu peux que t'incliner en fait. Hein,
parce ouais,
que,
c'est ça.
Vraiment, la séquence, elle est, ils sont tous applicables. En plus, Kevin Owens, il est effectivement tout en retenue. Bon, Jericho, c'est Jericho. Moi, j'aime bien, hein, donc ça me pose pas de problème. Et pour une fois, Zayn, il sort vraiment une belle promo là de, ouais. De face. Vraiment, voilà, il en jette. Non, bah quand c'est bien fait comme ça, hein, y a pas. Voilà, du coup, maintenant, on a envie de voir le match, quoi. Autant la semaine dernière, c'était pas fait, autant là, maintenant, voilà, on a envie de voir cette conclusion. Et puis, ce sera sûrement un beau match, hein, de toute façon. Hein, faut pas se leurrer. Là, on a des cadors, donc il faut en profiter. Hein. On est loin de Rousseff Titus, quoi. On est à l'opposé, quoi.
J'ai trouvé aussi que, on sentait aussi vers la fin de la promo, on sentait de l'amertume chez les deux, quoi. C'était pas, il y avait plus de. On voit qu'ils ont pas de colère, et c'est en ça que le match va être intéressant, parce qu'ils ont plus, de colère, ils sont fatigués de s'être affrontés 300 ans, et du coup, ça promet peut-être aussi un match un peu différent de ce qu'on a vu, un peu moins spotfest, peut-être un peu plus psychologique. Donc voilà, j'ai trouvé ça
ouais,
vraiment.
C'est vrai. T'as raison. C'est vraiment la psychologie là qui rend ce match intéressant et ouais, je suis impatient du coup là de voir le match, de voir la finalité de ce match là, comment ça va se terminer et toute la psychologie.
C'est là qu'on voit le talent de Owens, de Zayn et puis de Jericho aussi quelque part, ouais. Partir sur un truc où c'est pas du tout gagné comme ça et puis même partir sur des trucs sur lesquels on s'attend pas, hein, le Owens en retenue comme ça, moi je m'attendais pas du tout à ça.
Oui, c'était vraiment intense.
Impeccable.
Bravo messieurs, bravo.
Voilà, chapeau bas.
le label ketchup.
Le premier label ketchup.
Seal of quality.
Voilà. On gardera dans les annales celui-là.
On va terminer avec un peu de rire puisque les un début de vidéo sur le Titan Throne où on voit des personnages dans le noir, on se dit directement c'est la Wyatt Family. Et puis on découvre leur visage et c'est New Day qui sont habillés en bouseux du Bayou. Donc ils se moquent bien de New Day. Voilà, il y a Big Geek qui a une barbe, la grosse barbe de Luke Harper, je crois. Et puis Comment il est habillé en quoi déjà, Kofi Kingston? Je crois qu'il est en Bray Wyatt.
Non, il est en Eric Rowan.
Ah non, il est en Eric
Rowan. Et Biggie, en fait, ouais, il est en mode Culberry Finn, quoi.
Ouais. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, mais c'est Tom Sawyer, ouais. Fait Sauvage du Bayou.
Donc voilà, ils font leur promo. Vous en parlerez peut-être parce que j'ai pas tout retenu de leur promo, mais c'est voilà, c'est les blagues potaches habituelles. Mais juste à ce moment-là, donc au bout de 2 minutes, on a bien sûr la vraie Wyatt Family qui arrive. Et donc Bray Wyatt qui lui sort un discours très sombre en disant le pouvoir de la positivité, est-ce que ça va sauver un homme qui a perdu son boulot et qui doit nourrir ses enfants qui meurent de faim, c'est la fin du monde, bordel. et donc voilà, et bon, ça touche pas, enfin si, il redevient un petit peu sérieux, New Day, mais surtout, c'est Xavier Woods qui semble traumatisé par la promo de Bray Wyatt.
Ah, complètement.
Et donc, par la suite, on les voit backstage interviewés par Renee Young, et donc Kingston et Big E, voilà, ils restent plutôt enjoués, plutôt en forme, tout ça. Et par contre... Xavier Woods dit pas un mot et il se tire même quasiment avant la fin de l'interview. Donc voilà, on a une espèce de signe comme quoi Xavier Woods pourrait rejoindre les Wyatt ou faire un turn, on ne sait pas. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Si vous avez des choses à dire sur cette séquence.
Bah, enfin, les Wyatt, après l'épisode de Daniel Bryan, on se souvient, c'était quelques années maintenant, été touché par, sombré sur la Wyatt Family, qui avait passé du côté obscur, qui s'est un peu retourné le cerveau. Là, visiblement, Xavier Wood, c'est un esprit assez fragile, parce qu'il n'a pas fallu beaucoup que le serment dure très longtemps pour qu'il se sente. Visiblement, il y a un truc. Faut fouiller dans son passé, dans son enfance. Il a dû se passer quelque chose, on en prendra certainement plus tard. Donc ouais, moi j'ai trouvé ce segment sympa, et puis surtout les New Day, voilà, il est temps de les secouer, et la fin de leur règne s'approchant probablement, concordant avec ce fameux record de durée de règne qui va être bientôt battu. Voilà. Programme pour les Wyatt, ouais, fallait bien leur trouver un programme, pourquoi pas, hein. C'est assez original, parce que finalement, les New Day, on avait imaginé tout un tas de prétendants crédibles, on va dire, pour leur prendre le titre. Ils ont tous glissé dessus, hein. Ils ont fait leur Fatal 4-Way au pay-per-view précédent, et on n'a plus entendu parler de n'importe quelle autre team par rapport à Title Picture. Peut-être que certains pourraient regretter ça, d'ailleurs. Mais voilà, ouais, je trouvais que c'était un segment intéressant. Mais surtout pour le développement un peu des New Day.
Et juste une chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai trouvé la mise en scène plutôt sympa, parce qu'ils avaient éteint une bonne partie des lumières du côté de la Wyatt Family. Enfin, ça faisait un bon contraste, en fait, parce que la Wyatt Family était près du Titan Throne, mais ils avaient fait un petit peu l'ambiance dark d'un côté, et puis... Voilà, les New Day de l'autre.
D'ailleurs, quand tu avais la séquence dans l'obscurité, donc t'as les gens qui sortent leur smartphone, tu sais, pour faire jouer le jeu du générique, la musique après des familles Wyatt. Mais t'as aussi les licornes des New Day qui sont aussi phosphorescentes, qui brillent dans le noir. Donc je suis impatient, moi, au pay-per-view, de voir l'entrée des deux, où tu as les gens avec à la fois les smartphones qui brillent et plus les licornes des New Day, hein, ça va te donner une image assez, assez rigolote.
Ouais, moi je suis moins emballé, mais...
oui, non, oui, oui. Ouais,
il n'est emballé pas.
C'était trop long, moi, je trouve, la séquence. J'ai bien rigolé quand je les ai vus apparaître à l'écran, le New Day grimé en Wyatt Family, mais après j'espérais qu'ils allaient nous faire des imitations, des trucs comme ça, puis finalement ils ont fait une promo classique... pas drôle, lent, c'était long. La Wyatt Family sans Luke Harper, moi, ça me fait peur. Hein. Je suis moins enthousiaste que vous sur ce que ça va donner dans la suite.
Par contre, j'aime bien ce qu'il fait. Je t'interromps tout de suite, mais Xavier Wood étant grimé en Luke Harper, Luke Harper étant actuellement en dehors des rings, est-ce qu'il n'y aurait pas eu genre une histoire de transfert de personnalité Luke Harper dans Xavier Wood qui expliquerait
C'est pour ça que tu m'arrêtes dans mon explication.
Oui, bonjour, j'entends sur mon balcon.
C'est possible. Non, j'aime bien ce qu'ils font avec Xavier Woods, effectivement, ouais, ça pourrait être un truc marrant, mais après, voilà, la promo en elle-même, j'ai trouvé ça trop long, et puis moi, j'ai toujours du mal avec cette division tag team qui tourne juste autour du New Day, tout le temps le New Day. Voilà, effectivement, ouais. Comme tu disais, on n'a pas trouvé de challenger intéressant, hormis la Wyatt Family. Ça, c'est bien parce que la division tag team, elle n'est pas au top du top, quoi qu'on en dise, quoi. Mais
il y a des bonnes équipes, mais je suis d'accord là-dessus.
Sur New Day, moi, quand je l'ai, enfin, du coup, bon, le fait qu'ils soient grimés en Wyatt Family, bon, c'était marrant, mais quand je les ai vus arriver, j'étais en train de me dire, ça commence à être, même là, ces dernières semaines, ça commence à être long, un petit peu les New Day qui trouvent à chaque fois, enfin, qui font à chaque fois leur sketch, etc. Et puis en face il y a pas vraiment de répondant pour l'instant, et Enzo et Cass sont repartis à la casse départ.
Affronter les social outcasts, quoi.
Voilà, pour ceux, les social outcasts.
Alors il faut dire que c'est ça le truc, faut dire que comment il s'appelle, Curtis Axel, il est bon, hein. Par contre, lui il est vraiment talentueux. Ah, mais bon,
ça fait vraiment plaisir de le revoir.
Voilà, il nous avait manqué. T'as
raison, il faut notre petite minute Curtis Axel. Voilà. Et là, on va se faire
taper dessus. Moi, au moins, dans les social outcasts, j'avoue que moi, Bo Dallas, même s'il sort que de la merde, il me fait toujours marrer.
Ah, il est génial, Bo Dallas.
Quand il ne catche pas, hein, il doit juste pas catcher, mais sinon, quand il ne catche pas, il sort des
conneries. On a une division tag team qui brille pas au micro, mais peut-être un peu moins sur le ring.
C'est ça, c'est ça.
Et puis on fait rien avec vu qu'ils sont occupés à sauver AJ Styles toutes les deux secondes, on fait rien avec Gallows et Anderson, donc c'est aussi du gâchis, et pas du gâchis parce que ça fait partie de la storyline. Mais c'est sûr que ça manque de talent. Et puis on aura peut-être un The Revival ou Chad et Gable qui arriveront d'ici quelques mois, mais ou les deux.
Oh là là. De toute façon, toutes les storylines.
Mais si les deux,
c'est quand
il
va y avoir le draft.
Ouais.
Tout ce qu'on est en train d'analyser, ça va tomber à l'eau. Il y a le draft qui va arriver, ils vont faire de nouvelles histoires et puis ça va partir sur autre chose, je pense.
Ouais, le pire, c'est que. Ouais, t'as peut-être bien
raison. Au moins, on n'a pas eu. Vous avez remarqué.
D'ailleurs,
vous avez remarqué.
Oui, vas-y.
J'allais dire, cette semaine, nous n'avons pas eu de Shining Stars.
Oui, bah je crois la semaine dernière non plus, non.
Je sais pas. Ouais, j'avoue que l'épisode de la semaine dernière, j'ai un peu regardé en vitesse, donc j'aurais pu.
Attention, je crois que si on en parle dans 3 podcasts de suite, ils apparaissent.
Ils apparaissent.
Encore là, ça fait déjà 2 fois là.
Pensez à en parler la semaine prochaine.
Les Beetlejuice de la tag team.
Ouais. Bah ils avaient fait le même traitement. Comment il s'appelait, Sylvain Grenier. C'était Sylvain, l'ambassadeur du Québec. Pareil, pendant un mois ou deux, des vignettes. Il est venu 2 semaines et puis il a été viré. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire pareil avec... je ne sais pas s'ils ont des accords avec les...
C'est la team Panini, le mec qui collectionne
c'est
les vignettes.
Ça. Voilà.
Ils ont mis Sylvain Grenier à la cave.
C'est ça, je ne sais pas si ça va être le même traitement.
Mais que quelqu'un l'arrête tout de suite.
donc voilà, c'était tout pour cet épisode de Monday Night Raw. On va passer directement aux notes et ensuite la question à la con comme d'habitude. Mais on va donner déjà les notes. Je vais demander la note tout d'abord à notre heel du podcast, c'est-à-dire Ringside, qui apparemment n'a pas été chaud du chapeau.
Alors déjà, les notes de Ringside sont sur 3, en fait, toi.
Ouais.
Ils sont pas sur 5.
Bah, je voulais mettre 1, mais je vais mettre 1,75, je crois. Parce que vous m'avez bien fait rétablir le truc avec la promo de Owens et compagnie. Donc, je mets un peu plus que ce que je voulais mettre.
1,75
Ouais, ça va être un
challenge. Aïe, aïe, aïe. Hein?
Moi, je vais établir...
Bah, alors,
je vais établir... Je vais établir une feude ringside Giscal.
Voilà.
Ah oui, bah là, c'est du tout cuit, là, ça, c'est sûr. Non. Bah, alors, qu'est-ce qui fait que ça vaut 1,75 qu'est-ce qui t'a plu?
The Miss Kane, dire... on... alors, non, non, on n'a pas parlé tout... Le...
Si tu dis ce qui t'a pas plu, on... le podcast, ça a duré, ça va exploser. Dis-moi juste au moins ce qui t'a plu. Ouais.
Bah, le...
D'accord.
Owens et compagnie. Ouais. Après, le reste, le final... Et puis le reste, non, pour moi, c'était pas bon. Hein.
Ok. Bah moi, moi, je vais être un peu plus généreux, mais bon, c'est pas difficile.
C'est
je
ça.
Je vais mettre 3. 3, c'est très bien, 3. 3. J'ai beaucoup aimé bah, la séquence, effectivement, Owens, Sami Zayn. Les rivalités croisées, Styles, Cena, Shield, ça a plutôt bien marché avec moi. Il y avait des bons matchs de pay-per-view comme ça. On a Sasha Banks qui revient pour voilà, la diva révolution, enfin, woman title picture qui repart dans le bon sens. Voilà. Après, sinon, c'est vrai que c'était pas flamboyant, mais c'était un bon show de milieu de road sans grosse surprise. Ouais, 3 sur 5. En fait, c'est comme si j'avais donné la note maximale sur l'échelle de ringside. Quoi.
C'est ça.
3. Bon, et toi,
beaucoup
Hank,
trop,
alors
beaucoup trop. C'est pas possible.
moi, je vais mettre 3 aussi. J'ai un sentiment bizarre, en fait, sur cet épisode. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'épisode bon. Il y avait des bonnes séquences. Et finalement, ouais, quand on résume le tout... Il s'est quasiment rien passé au niveau d'avancement des storylines et tout ça. Mais on a eu des séquences que moi j'ai vraiment appréciées. Enfin, il y a eu une bonne demi-heure de l'émission que j'ai trouvé vraiment très bonne. C'est-à-dire en fait Cena contre Rollins, la promo de Owens et Zayn. Et puis voilà, le reste c'était des trucs soit regardables. J'ai trouvé en fait c'était pas, il y avait des séquences qui étaient pas forcément très bonnes, mais qui étaient que j'ai trouvé originales, ou du moins c'est pas resté plus longtemps que ça devait l'être. Enfin, ça devait, c'était pas aussi long, enfin c'était pas plus long que ça devait l'être. Par exemple, le Miz contre Kane, ils l'ont quand même emballé, ils n'ont pas fait un vrai Miz contre Kane, donc ça allait. Pareil, le Rusev O'Neill, ils l'ont coupé court. Donc voilà, je trouve que sur le rythme, en tout cas, même si tout n'était pas formidable et que voilà, il n'y avait pas une excitation de fou parce que finalement, on avait quand même deviné dès le début que le triple threat allait rester le triple threat. Il y a eu un bon rythme, je trouve, sur ce Raw.
Ouais, attends, c'est quand même les deux gros matchs ont duré 15 minutes chacun. Le match de filles a duré presque 10 minutes. Et tout le reste, bah, ça a duré moins de 5 minutes. Donc,
voilà. Donc, je pense que même si l'écriture peut s'améliorer sur le rythme, au moins, ils ont trouvé une recette qui est pas mal. Après, moi, je serais totalement pour qu'ils réduisent à 2 heures et tout le monde leur dit de réduire parce que 3 heures, c'est trop long. Enfin, 3 heures. C'est 2 heures et quart si on compte pas les pubs, mais. Pour les revenus pub, mais c'est dommage parce que tout le monde s'accorde là-dessus. Hein, c'est un poil trop long et il faudrait justement avec ce brand split, ils pourraient. Alors s'ils veulent rallonger d'une demi-heure SmackDown pour réduire Raw ou je sais pas quoi, bah pourquoi pas.
Mais ouais, je crois que les dernières, je sais pas si c'est des rumeurs ou des news, peut-être que Ringside sait plus que moi, mais c'était plutôt du genre, ah bah SmackDown on va mettre aussi 3 heures, et puis au fait les pay-per-view ils vont tous durer 4 heures.
Ouais, voilà.
Et il y en aura 2 par mois.
Ouais,
Et s'il vous plaît,
il va falloir
arrêter...
faire beaucoup mieux que ça hein, pour qu'on reste 6 heures à regarder la WWE de la semaine. Hein.
Pour être fan de catch, il faudra abandonner son job.
C'est ça.
on va
devenir
passer
insomniaque.
À... Ou devenir insomniaque. On va passer à la question à la con de la semaine. La question à la con qui n'est pas si con, hein, vous le savez très bien. C'est, doit-on garder Roman Reigns dans le main event de Battleground le 24 juillet?
Alors, ça, c'est...
Alors, oui, je sens une touche de cynisme.
Émanant de Rick
il va forcément rester, etc. Si on prend pas, si on croit au bon sens de la WWE et au fait que de toute façon ils peuvent faire ce qu'ils veulent et décider d'un jour à l'autre d'écrire quelque chose qui justifie ça, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas bon de conserver Roman Reigns dans le main event de Battleground? Alors d'abord ringside.
Alors cacher les enfants. Moi, c'est-à-dire que si Chris Benoit revenait maintenant, je le mettrais dans le main event. Donc si Roman Reigns veut rester dans le main event, qu'il reste dans le main event. S'ils avaient voulu l'enlever, il l'aurait enlevé il y a longtemps, je crois. Mais je pense que lui, de toute façon, il va avoir un petit dépush, hein, je pense, dans l'année quand même. Voilà, après honnêtement
mais toi pas trop... même si t'es persuadé que voilà c'est fini, c'est bouclé, etc. Est-ce que tu trouves ça bien, est-ce que c'est bon pour
bah après,
est-ce
ça
que c'est bon
ce
pour lui
réellement...
de revenir dans un main event?
Y a rien qui est bon pour lui. Ben non, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils y arrivent pas, et puis je sais pas pourquoi ils s'acharnent là-dessus. Après qu'il reste vraiment pour le match là en particulier, c'est l'affiche le Shield, les trois du Shield qui s'affrontent, c'est une belle affiche.
On a une belle affiche un peu gâchée par ça en fait. Finalement.
Ouais, mais du coup ça va attirer les curieux. Un point de vue business, c'est
bien sûr.
C'est intelligent.
Business, il faut le garder. Le garder et peut-être même le réitérer pour SummerSlam en fonction de ce qui va se passer. Voilà, qu'ils soient intégrés ou non directement dans le match. On peut aussi imaginer qu'effectivement ils le mettent de côté et puis que ça, il intervienne dans le 1 contre 1 et du coup ça fait triple threat à SummerSlam avec une espèce de heel turn de Roman Reigns, parce que le mec finalement oui l'autorité ou je ne sais qui a décidé de finalement le kicker de l'affiche à Battleground, et le mec il intervient à la fin de Battleground pour le bordel dans le match. Ok, d'accord, tu reviens, on va faire le SummerSlam, et là on aura notre fameuse triple threat pour un gros pay-per-view. C'est difficile entre ce qu'on veut pour ce qu'on imagine, ce que va faire la WWE d'un point de vue business, ce qu'il devrait faire par rapport au catcher en lui-même, plus que nous on voudrait ou ce qu'on imagine. C'est plein de choses totalement différentes, toi, et je sais pas ce qui va l'emporter entre effectivement le côté business et le côté gestion du vestiaire, faire un exemple.
Après, est-ce qu'il risque pas un retour de bâton en le maintenant dans le pay-per-view? Parce que là, pour l'instant, il se passe rien au niveau des médias, on va dire mainstream, mais s'ils le maintiennent, est-ce qu'il peut pas y avoir un peu une diffusion dans les médias comme ça, d'une information comme quoi ils ont mis dans le main event un mec qui a failli à la wellness policy? Parce que ça peut pas leur faire de la mauvaise publicité, ça aussi, au final.
Ça marchera que si on connaît la raison, quoi. Si on connaît pas la raison, c'est trop abstrait pour. C'est pour ça que les médias. Enfin, je pense pas que ça résonne beaucoup dans les médias pour l'instant, parce qu'on connaît pas la raison. Après, une fois que tu as genre il a fumé un joint ou il a fait tel truc, etc. Là t'as un titre pour des articles buzz.
Bien sûr.
Mais pour l'instant, bon, c'est pas très buzzant de dire il a failli à la wellness policy. Les gens, c'est quoi la wellness policy?
Même nous, on aurait du mal à l'expliquer. Alors.
Donc, par contre, il y avait une bonne idée dans ce que tu disais, Jérém, c'était de le faire revenir en heel. Mais moi, je dirais, pour aller encore plus loin, il pourrait, vu qu'ils assument le fait qu'il ait été suspendu, pourquoi pas. Mais alors là, c'est vraiment un peu rêve de booking. Pourquoi pas le faire, dire qu'il l'éjecte, et là personne comprendrait, tu vois, tout le monde dirait non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas expliqué, c'est incohérent et tout ça. Et là, à la fin donc du match, on fait toujours l'intervention de Roman Reigns, mais cette fois-ci en fait, c'est qu'il a pactisé avec l'autorité, parce que s'il pactisait pas comment il pourrait pas, enfin, voilà. Et justement, le pacte pour battre Ambrose que déteste Stéphanie. Donc voilà, ça s'emboîte très bien. Donc si vous êtes de la WWE France, n'hésitez pas à me contacter. J'ai formidables idées de booking pour vous.
Vous sortir du pétrin quand vous avez votre top guy qui a fait des conneries, appelez Hank.
Voilà.
De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont utiliser, ils vont l'utiliser pour le personnage. Ils vont intégrer ce qui s'est passé. Ils ont déjà commencé là. Ils vont l'utiliser. Ouais, mais... J'ai du mal à me dire, ils vont pas l'utiliser. Pas forcément le rabâcher, toi, mais en profiter pour utiliser cette suspension pour faire quelque chose de son retour et pas juste le mec. Ben il apparaît Battleground. On l'aura pas vu pendant 4 semaines.
Moi, j'ai très peur. Son tweet, en fait, ça me fait assez peur parce que le mec la joue j'assume et machin. Ouais. Et donc, du coup, le pire truc qu'il pourrait faire, et pour l'instant, ça part là-dessus, c'est la rédemption. Et s'il arrive en mode rédemption...
la rédemption du mec qui a fumé un joint.
C'est plus des bouts qui va se taper, c'est des tomates. Hein. C'est pour ça que moi, je pense que il faut le. Moi, je suis pour le retirer du match, quitte à le rajouter en mode heel qui revient à la fin du match, etc.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il faut le retirer parce que pour l'instant, on assume et on n'assume pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que Rollins dit, donc, alors je sais bien que c'est un heel, c'est censé être genre le mec qui dit j'ai pas le droit de le dire et blablabla, mais on sait très bien, donc maintenant ils assument le truc, mais ils l'assument qu'à moitié parce que Roman Reigns est toujours dans l'affiche et je veux bien que la suspension aille jusqu'à genre, je sais plus, un jour ou deux jours avant le pay-per-view. Ça reste quand même un brin incohérent ou illégitime de l'autoriser à revenir pour ça, quoi, je trouve.
Ouais. J'espère vraiment en tout cas qu'ils ont bien préparé ça parce que limite ils se sont mis un gros bâton dans les roues. En même temps, fallait gérer, toi, le collatéral damage, etc. Contrôler le truc, mais en tout cas ça rend le truc ça donne de l'intérêt à Battleground encore plus.
C'est ça. Donc moi ça aura servi à ça, mais
voilà. Sur l'échelle de
Ringside, on aurait pu s'en passer en même temps. C'est déjà pas mal, ouais.
Ou alors j'ai une dernière.
Comme je dis, moi, c'est un... Vas-y.
Non, désolé.
C'était pas intéressant ce que je disais.
non mais je suis en mode fantasy booking à fond. Dernière solution, messieurs de la WWE, vous pouvez continuer à le booker pour le match. Par contre, quand il arrive dans l'arène. Pour son entrée pour le match. Déjà, il arrive en dernier, obligé, et il fait une promo d'une minute, mais il sort un truc qui construit un peu le personnage, ouais. Genre, soit il est en mode vénère ou je sais pas quoi, mais etc. Mais une promo, quoi. Pas juste qu'il arrive et qu'il catch alors que... Voilà, comme si de rien n'était. Ouais.
C'est le pire qui puisse arriver, c'est faire comme si de rien n'était. Alors qu'ils ont fait comme, ils ont pas fait comme si de rien n'était. Ils peuvent plus faire marche arrière.
Ou alors il arrive et il gagne.
Il arrive sur le ring et il se roule un gros joint au milieu du ring.
Un gros stick, voilà.
Roman Reigns,
un gros stick. Lol. Son nouveau
gimmick. Il vous emmerde.
Il fait un squash. Voilà.
Il fait un squash, il est défoncé les deux, ça dure 5 minutes.
Et il s'en allume un gros avec le titre, voilà. Triomphant.
Et juste après ça...
Il casse Internet.
Voilà. Et juste après ça, on a une alliance des fans de la WWE avec Daesh pour faire un attentat au prochain pay-per-view. Bon, on ne devrait pas rire de ça, désolé, non. des moments...
Mais il se fait tard. Fans.
Voilà, il se fait super tard. On enregistre ce podcast, je pense, à l'horaire le plus tôt que j'ai jamais fait. On va vous remercier parce qu'on a rien d'autre à dire sur Roman Reigns à part bonne chance et salut l'artiste.
L'ami, ouais.
Je remercie mes compatriotes et néanmoins camarade ringside. Merci d'être venu.
Merci. Merci à toi, merci à vous.
Et merci Guilhem.
Merci à vous et n'oubliez pas, vous pouvez suivre le podcast sur PodCloud, iTunes, YouTube, Mixcloud. Abonnez-vous.
Abonnez-vous, donnez-nous plein de likes et de commentaires aussi, parce qu'on regardera et tout ça. Commentez, likez, partagez. Donc voilà, parce que c'est monsieur Yerem qui s'occupe de tout ça et on le remercie énormément parce qu'il fait des jolis visuels et il upload les choses partout. On vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne semaine de catch. Et on vous dit à très bientôt.
Salut.
À plus.
Ciao, ciao.
Je trouvais qu'on était pas mal et quand t'as commencé à parler de la famille Wyatt, j'ai fait « Ah mince !»